Vous écoutez France Culture. Hors champ. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Orchamp ce soir, quatrième émission avec Philippe Solers. Philippe Solers, lundi et mardi, vous avez parlé de vos rencontres intellectuelles, de vos premiers romans, de votre art, de l'écriture. Hier, nous avons pu vous entendre avec Julia Kristeva. Et ce soir, parmi les femmes, vous avez choisi Josiane Savigno. Alors, je voudrais commencer par un très court extrait de votre avant-dernier livre, Fugue. Vous écrivez ceci, vous concernant: « Je trouve déraisonnable le fait d'écrire sans avoir le violent sentiment d'écrire. Amener la parole à la parole en tant que parole ou amener l'écriture à l'écriture en tant qu'écriture, c'est exactement ce qui est en général refoulé. On est censé écrire des romans qui, comme dit très bien Isidore Ducasse, peu lu à mon avis, s'accroupissent aux étalages. » Comment tenir debout dans la situation métaphysique où nous sommes? Est-ce que nous tenons debout ou pas? Tenir debout, dit Rimbaud dans La rage et les ennuis, ce n'est pas rien. Est-ce que vous tenez debout aujourd'hui, en ce début d'année 2013?
Tout à fait debout, et il faut bien souligner, dans la rage et les ennuis. Car tenir debout aujourd'hui et non pas tituber, c'est devenu héroïque. Quand on voit le désordre, le gaspillage, le mépris, l'indifférence, tous ces corps qui se bousculent dans le néant auquel on les contraint, enfin bon, c'est effrayant. Le jeu de marionnettes politiques complètement manipulé par les marchés financiers invisibles ou par la mafia, pouvoir invisible, donc le blanchiment par-ci, les licenciements par-là, on est dans une époque ultra-réactionnaire, mais qui va plus loin que l'époque. Il y a quelque chose comme une sorte d'angoisse sur cette planète, quoi. On est vraiment dans la mondialisation, comme j'aime dire, l'immondialisation, n'est-ce pas? Donc, tenir debout devient de l'héroïne. Le seul fait de tenir debout, au lieu de tituber, de dormir debout, être éveillé debout devient extraordinairement difficile. Pour moi, c'est assez facile parce que je me suis douté tout de suite, dès l'enfance, que ça allait mal tourner tout ça. Et j'avais raison puisque les maisons étaient envahies par des voix assez saccadées d'occupation allemande et qu'on était obligé d'écouter la radio.
On n'est pas en situation d'occupation aujourd'hui.
Si. On est occupé de façon invisible par des marchés financiers qui déterminent, selon des voies mafieuses, votre vie. Écoutez, 24 attentats en Corse sur des résidences secondaires, après le 17e ou le 18e assassinat, les Français découvrent brusquement, enfin ils n'avaient pas l'habitude, pourtant ça dure depuis fort longtemps, mais enfin ils découvrent quelque chose d'autre. 24 attentats pour la résidence secondaire de la mafia corse, qui a d'ailleurs eu ce souci charmant de faire savoir que pour le 8 décembre, tout ce feu d'artifice était dédié à l'Immaculée Conception.
Vous intéressez à l'actualité? Vous lisez tous les journaux?
Mais oui, bien sûr, les journaux, je zappe à la télévision, voilà, ça n'arrête pas, c'est en boucle. Bon, si vous voulez regarder ces jours-ci la télévision, vous avez en boucle Navissatou Diallo, DSK.
Vous transformez DSK en un pigeon dans votre dernier bouquin?
Oui, oui.
Un pigeon, ça roucoule?
Oui, je suis assez content de ce passage. Il y avait des pigeons et roucouleurs et qui n'arrêtaient pas de m'embêter d'ailleurs, parce que quand ça roucoule, ça roucoule, ça roucoule, ça roucoule. Et alors, moi, j'essaye d'écouter ma musique. Et alors, il y en avait un tout à fait bien nourri, une sorte de DSK, en quelque sorte, et que j'entendais, je déchiffrais quand même. Nafissatou, 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 Diallo. Puis ça recommence tout de suite. Nafissa tout, Nafissa tout, Nafissa tout, Diallo. Nafissa tout. Enfin bref, c'était la saison des amours des pigeons. Mais enfin, il y en avait un qui visiblement ne recevait pas de réponse, ne trouvait pas de partenaire et me cassait les oreilles avec, voilà, Nafissa tout, Nafissa tout.
Josiane Savigno, Solers nous fait rire, mais Solers ne nous fait pas toujours rire. Pourquoi aimez-vous Solers? Et depuis combien de temps?
Depuis toujours.
Avant même que vous ne l'ayez lu?
Non, pas avant
elle
même.
Elle pourra dire d'elle-même que je lui ai dit qu'elle était, pour moi, une amie très chère, et qu'elle était celle qui m'aura fait le plus rire. C'est elle qui me fait rire.
Oui, il me fait beaucoup rire aussi. Je dis toujours qu'il devrait être remboursé par la Sécurité sociale, parce qu'il n'est jamais déprimé. Et qu'on est... Non, Solers, j'aime ce qu'il écrit depuis l'université. Et c'est très drôle, parce que j'ai toujours eu maille à partir, en fait, avec des gens à cause de Solers. À l'université, j'étais aux prises avec des telquéliens. Moi, le telquel, bon, je n'ai pas, vous savez, la tête tellement philosophique. Je préfère vraiment la littérature. Je suis un petit peu nul, un petit peu taré de ce côté-là. Et donc, je disais, ce type est un grand écrivain. Et tous mes amis telqueliens disaient, mais ça va pas.
À propos de quel texte? Non. Pas une curieuse solitude après, alors.
Il y a une curieuse solitude. J'ai pas lu la parole une curieuse solitude. Je crois que le premier livre que j'ai lu, ça doit être Loi ou Nombre. Je sais plus, l'un des deux. Et c'était très difficile pour moi quand même, parce que c'était des livres vraiment assez ardus. Mais en même temps, j'étais vraiment séduite par l'écriture, par la manière d'écrire au souffle déjà, je dirais. Et donc, je disais à mes copains, moi, Solers, c'est difficile ça, mais ce type est un grand écrivain. Et ils me disaient, mais arrête, il n'écrira plus jamais de fiction. La fiction, c'est terminé. Tu dois lire tel quel. Tu dois lire tel quel et tu dois comprendre. Et c'est un grand... Bon. Et puis, au bout du compte, c'est quand même moi qui ai eu raison. Ensuite, quand je suis arrivée au monde des livres, Solers avait déjà écrit dans Le Monde. Jacqueline Piatier lui avait fait écrire sur Aragon, justement. Vous mentionniez Aragon dans une autre émission. Et puis, moi, j'avais envie qu'il écrive au Monde. Donc, il a commencé à écrire dans Le Monde. On a travaillé ensemble pendant 18 ans. C'était vraiment très agréable.
Des feuilletons.
Voilà, il écrivait chaque mois.
Non, pas des feuilletons, des articles.
Non, pas des feuilletons, des articles.
Des grands articles.
De grands articles chaque mois, oui.
De grands lecteurs.
De grands et très bons. Et alors du coup, ça a fait des vagues.
Ça, c'est pas vous qui avez le droit de le dire.
Si.
Et là, vous ne pouvez pas vous juger vous-même, contrairement à ce que vous pensez.
Si, je me juge moi-même très bien.
Et là, évidemment, j'ai eu à nouveau des ennuis. Le fait d'aimer tellement Solaire, j'étais considérée... D'abord, c'est très compliqué. Alors, vous savez ça mieux que moi. C'est-à-dire que quand une femme a une certaine position, il y a toujours un homme derrière. Alors évidemment, Solaire, c'est quelqu'un qui tient de la place. Donc, j'étais, paraît-il, sous influence. C'était lui qui dirigeait le monde des livres. J'avais beau expliquer que 95% de ce qui se publiait dans le monde des livres, il n'en avait rien à faire, mais vraiment rien à faire. Bon, tant pis, ça m'a valu beaucoup d'ennuis. Mais c'est pas si grave, après tout. Mais du coup, puisqu'on parle de lui, c'est mieux de parler de ses livres que de parler du social et d'à côté. Donc je voudrais quand même dire un mot du livre qui sort maintenant.
Portrait de femme.
Qui s'appelle Portrait de femme.
Au pluriel.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il vient 30 ans après Femme. C'est pas pour rien, à mon avis. Et aussi parce que je pense que quand on connaît un peu Solers, je dis un peu parce que je pense que tous ceux et celles surtout qui pensent le connaître bien se trompent. Personne ne le connaît bien. Personne ne le connaît.
Peut-être même pas lui-même.
Si, je crois que lui se connaît lui-même. Mais les autres, non. En tout cas, quand on le connaît un peu, je pense qu'on pouvait s'attendre à ce livre-là. On n'est pas étonné par ce livre. Et pourtant, si. On est très étonné par ce livre parce que, le connaissant un peu, on se disait qu'en effet, il pouvait écrire ça. En effet, il était comme ça. Mais qu'en effet, il n'écrirait jamais comme ça. Jamais sans détour. Jamais dans cette manière-là. Il y a, par exemple, une scène magnifique dans Portrait de femme sur la mort de sa mère. Dans Le secret, il y a 20 ans, il y a aussi une même scène sur la mère du narrateur. Mais cette fois-là, c'est dans le détour du roman. C'est évidemment... Autrement, les femmes qui sont dans ce portrait de femme, on les retrouve dans beaucoup de romans, mais elles sont autrement. Pourquoi je dis 30 ans après Femme, c'est important? Parce que Femme a été mal lue. Il serait peut-être temps de le relire d'ailleurs, ou de le lire vraiment. On est à chercher des clés. On s'en fiche aujourd'hui des clés. On s'en fiche de savoir que Bernadette, c'était Antoinette Fouque. Ça intéresse qui? Personne.
Ah, ben je l'apprends grâce à vous. Je vais relire ce passage de Femme.
Voilà, elle veut chercher des clés. Elle veut chercher
les clés sont toujours multiples. Il y a
mais c'est bien d'être un écrivain crypté.
C'était toujours des identités rapprochées multiples. Mais
si je peux
des
juste
IRM. Oui.
Non, au moment de Femme, tout le monde s'est précipité sur les clés masculines.
Oui.
Personne.
Pas les femmes.
Je dis bien. Personne ne s'est préoccupé de savoir qui étaient les personnages féminins, y compris pour déchiffrer les clés. Ce que j'ai pris pour un symptôme énorme.
Mais surtout...
De machisme.
Mais oui. Est-ce que quelque chose a bougé? Peut-être pas.
Mais surtout, on ne s'est pas intéressé aux femmes positives. Elles sont reprises ici, les femmes positives dans Portrait de femme. On ne s'est pas beaucoup intéressé aux femmes positives. En soi, ça tort de dire qu'on ne s'est pas du tout intéressé aux femmes. Mais si, on a cherché les femmes négatives pour dire que c'était un livre contre les femmes, un livre anti-féministe, etc. Moi, je pense au contraire que c'est un livre féministe. Je pense que c'est après Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est le livre qui... D'ailleurs, ça vaut beaucoup de soucis à Simone de Beauvoir aujourd'hui d'avoir écrit Le deuxième sexe. C'est-à-dire, non pas de dire « femme, la vérité, parle la vérité, sort de ta bouche », mais de dire « femme, dans quel piège êtes-vous tombée depuis la nuit des temps et de quel piège devez-vous sortir ?» Donc je trouve que « Femme », c'est un grand livre là-dessus, sur ce problème de femme.
Que lisait Simone de Beauvoir à la fin de sa vie.
Juste à la fin de sa vie, et sur le malentendu entre les hommes et les femmes. Le malentendu éternel que peut-être, parfois, on peut, comment dire, calmer, apaiser, et on le voit dans « Portrait de femme ». Alors pourquoi je veux parler de « Portrait de femme » Je pense que vous en parlerez plus longuement autrement. C'est parce que je veux parler d'une femme qui est dans Portrait de femme, je veux parler d'une femme que j'aime, qui s'appelle Dominique Rollin. Et j'en parle au présent parce que je pense que d'abord, il ne faut pas parler des gens au passé et qu'il ne faut surtout pas parler des écrivains au passé. Et Dominique Rollin, c'est une femme que j'aime, un écrivain que j'aime. J'aime ses livres et j'aime cette femme. J'aime son rire. Alors son rire cascadant, dit Solers dans ce livre. Et le portrait de Dominique Rollin est évidemment absolument bouleversant. Moi, j'ai pleuré en le lisant. Mais ça m'a suggéré quelque chose. Je me suis dit, Dominique, pas du tout par jalousie, parce que c'était justement la question de la jalousie, se posait pas, enfin Solaire s'en parle dans Portrait de femme, mais se posait pas comme on le croit habituellement, c'est-à-dire avec qui tu me trompes, qui couche avec qui tu me trompes. Non, ça se posait pas du tout comme ça. Mais Dominique, dans un livre très beau qui s'appelle Journal amoureux, un livre qui leur a valu à tous les deux d'être piégés par Bernard Pivot, puisque leur amour pendant très très longtemps, est resté dans une clandestinité totale. Peut-être c'était un petit secret de polichinelle dans un certain milieu, mais pour tout le monde, Jim, le héros de tous les livres de Dominique Rollin, c'était pas forcément Solers pour tout le public. Et je me souviens que j'avais eu ce petit conflit avec Solers parce que leurs livres devaient sortir de manière séparée. Ils sont sortis finalement à 3 semaines d'intervalle et je lui ai dit « Oh là là, très mauvais ». Bernard Pivot va vous inviter ensemble. Il me dit, mais pas du tout, vous imaginez, c'est impossible. Finalement, c'est arrivé. Et il y a une scène assez belle, c'est-à-dire que Bernard Pivot, qui aimait beaucoup Dominique Rollin, qui aime beaucoup Dominique Rollin, je suppose, toujours, parle à Dominique. Et puis, il la fait bien parler. Elle a toujours son rire magnifique, cette espèce de lumière qu'elle a dans le visage. Et puis, au bout d'un moment, il lui dit, mais enfin, ce Jim, vous savez comment est Pivot, toujours là. Mais enfin, ce Jim qui est partout dans vos livres, mais il est là, à côté de vous, c'est Philippe Solers. Et alors Dominique prend un air de petite fille et elle baisse un peu les yeux, elle dit oui. Mais alors, dans Journal amoureux, elle a écrit quelque chose qui, pour moi, renvoie à Portrait de femme et renvoie à la part, comment dire, de secret qui doit rester entre les gens qui s'aiment. Je lis ce qu'elle écrit. Elle regarde en fait l'homme qu'elle aime, c'est-à-dire Jim, c'est-à-dire Solers, dormir. Je m'interrogeais. Regarder dormir l'homme que j'aime, sans avoir le droit de faire sauter les verrous de sa retraite, c'est le perdre momentanément. Donc, c'est scandaleux. Aujourd'hui, retournement d'opinion. Si l'on m'autorisait à trouer l'oreille de Jim endormi pour atteindre les plis des replis les plus raffinés d'un cerveau qui travaille en rêvant, qui rêve en travaillant, prisonnier de sa propre source de lumière, je mourrais, étouffé sur le champ par la violence de ma faute. Dors, Jim. Pour être plus juste, continue à te taire. J'aime autant le caveau de ta pensée que la fraîcheur de ton sourire lorsque tout à coup se rouvrent tes yeux. Nous sommes quittes l'un de l'autre, tu te lèves d'un bon bonheur.
Mais ça ressemble à du Solers. Peut-être, Philippe Solers, vous avez peut-être été influencé par l'écriture de Dominique Rollin.
Et inversement.
Et peut-être inversement, oui, car effectivement, on reconnaît le style Solers dans ce texte de Dominique Rollin.
Écoutez, c'est très passionnant de vivre, pour moi.
C'est une histoire extraordinaire.
Par exemple. Mais
c'est très passionnant de vivre avec
quelqu'un qui pratique le même art que vous. Bon, c'est comme si vous voulez, si on était musicien, par exemple. Hein,
mais vous êtes aussi musicien.
L'instrument, je pense. Je pense que le fait d'écrire a beaucoup à voir avec la musique, parce que Un écrivain, c'est une voix qui se module. Et si je reçois beaucoup de manuscrits par semaine, si la voix...
Dans votre rôle d'éditeur.
Si la voix n'est pas là dès les dix premières lignes, bon, on sait que c'est pas ça. Bon, voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir connu intimement, pendant longtemps, et de façon tout à fait clandestine, parce qu'il ne faut pas que du bruit arrive jusqu'à cette performance qui consiste à... jouer ensemble, séparé, hein, parce que bon, on n'écrit pas à deux mains, hein, il n'y a pas d'œuvre croisée, comme l'ont cru certains fantasmes. Non, enfin, il n'y a pas d'œuvre croisée. Mais il y a quand même quelqu'un qui joue du violon, ou du violoncelle, ou du piano, et dont la vie proche, mais complètement séparée, parce qu'on n'est pas en train de lire ce que l'autre écrit. Ça ne se fait pas.
On se lit au moment de la publication.
On se lit uniquement au moment de la publication, bien entendu. Bon, donc, ou plus exactement, c'est moi qui lisais les manuscrits de Dominique avant qu'elle les donne, parce qu'elle avait besoin d'avoir mon avis. Voilà. Bon. Mais, je ne sais,
vous auriez pu aimer Dominique Rollin si elle n'était pas écrivain ?
Je pense que c'est une aventure très, très singulière qui porte précisément sur... Ce que j'écris à propos de ça me paraît juste. C'est une expérience très singulière. Je n'ai pas dit que je ne pouvais aimer que des écrivains, ou des auteurs, comme on dit affreusement aujourd'hui. Bon. Mais non. Mais dans la continuité, dans la durée de ce qui peut se passer d'essentiel, ça a été le cas.
Il n'y a pas d'œuvre croisée, mais il y a quelque chose quand même. Il y a le fait que Dominique Rollin, quand on regarde par exemple les dossiers de presse de Dominique Rollin, des origines jusqu'à la fin, on voit qu'elle était partie pour être un grand écrivain, mais un grand écrivain dans un certain classicisme, on pourrait dire, enfin, encore que je n'aime pas du tout ce mot, mais disons dans une certaine forme de narration plus conventionnelle que ce qu'elle a fait après. Et c'est sûr que la rencontre avec Solers, la rencontre, les lectures du nouveau roman, ça a pénétré dans son œuvre et a changé, par exemple, cette manière qu'elle avait d'écrire souvent sur deux niveaux, le passé, le présent, l'avant, etc. Mais Solers le dit bien dans ce livre-là, et dans Portrait de femme, et Dominique Rollin le dit très bien dans beaucoup de livres. Il y avait toute cette expérience de leur vie à Venise, que Dominique appelait la ville étrangère, et cette chose assez extraordinaire, en effet, de deux écrivains qui peuvent écrire chacun à sa table dans la même chambre quand il ne fait pas beau, et quand il faisait beau, Dominique allait écrire sur le ponton et Solers, lui, restait écrire dans la chambre. Mais justement, je pense que Dominique, c'était la femme qui pouvait, quand je dis personne ne connaît vraiment Solers, je ne sais pas si elle le connaissait vraiment, mais je pense qu'elle le comprenait vraiment, peut-être beaucoup plus que toutes les autres femmes de sa vie. Là, il y a beaucoup de femmes qui sont citées, mais d'autres qui ne sont pas citées. Il y a des femmes qui peut-être se sont reconnues dans des livres. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront dans Portrait de femme. Il y en a peut-être qui ne se reconnaîtront pas. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront et qui ne seront pas contentes. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront et qui seront très contentes. Moi, je voudrais parler de celles dont j'espère qu'elles se reconnaîtront.
Mais auparavant, on va écouter la voix de Dominique Rollin.
Ça, c'est une très bonne idée.
Qui va parler de son travail d'écriture à Venise, son besoin de solitude aussi. C'est une archive du 5 juin 2000, carnet nomade, Colette Fellouze.
Quand je suis à Venise, je travaille 3 heures par jour, le matin toujours, et au moment où j'ai terminé le travail, toujours à la même heure, parce que j'ai une sorte d'horloge interne qui m'avertit, j'ai l'impression d'avoir voyagé. C'est vraiment toute une expédition que j'ai faite. Là-bas, ce qui est merveilleux, c'est que d'abord il y a l'air libre. On a l'impression que le ciel collabore à l'écriture, l'eau collabore à l'écriture, les mouettes collaborent à l'écriture. Les gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, ce qui est si précieux à Venise, c'est que je ne vois rigoureusement personne. J'ai besoin de solitude. Je trouve qu'on ne peut pas travailler... Enfin, il y a des gens qui adorent travailler en communauté ou avec une atmosphère d'amitié, même d'élan autour de moi, impossible. Je me retire au fond d'un moi-même qui est encore un autre fond d'un autre moi-même. Je ne connais plus personne.
Et quand on lit votre journal amoureux, Dominique Rollin, on se dit qu'au fond, vous parlez de solitude et ce grand amour... c'est aussi celui qui réussit à maintenir deux, de solitude qui sont là, qui écrivent, qui s'accordent et qui ne s'entament pas.
Non, qui se tournent le dos, littéralement.
Oui, vous le dites à un moment, les bureaux se tournent le dos.
Non, mais parce qu'il est très rare de voir un écrivain supporter la présence de l'autre à côté de soi ou derrière soi. C'est presque phénoménal. Et là, dans ce cas-là, ça marche. Et au contraire, ça rapproche dans le silence, dans le mutisme, dans l'ignorance de ce que l'autre est en train d'écrire. Parce que je ne fais jamais lire mes manuscrits avant qu'ils soient terminés.
Dominique, sans aucun artifice, est restée très belle jusqu'à la fin de sa vie. Écrivez-vous, Philippe Solers, dans ce livre qui va être publié très prochainement, Portrait de femme. Elle a continué chaque jour à écrire sa page et à tenir son journal. Cette discipline explique sa forme, rêve raconté compris. Lorsque nous étions séparés, on s'écrivait chaque jour et ses lettres seront sans doute publiées. Les siennes, avec le temps, étaient de plus inspirées et fermes. Je la revois sans cesse à Venise, où son ombre plane en pleine lumière heureuse. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout de façon déchirante. Je vis sous sa protection de fée, et si je lui demande de me faire signe, sa réponse est simple. Écris et je serai là. Et elle est là.
Que dire d'autre ? Les expériences dont je parle, celle-là principalement, mais aussi l'autre, c'est qu'on s'entend, ce qui paraît impossible. La guerre des sexes étant ce qu'elle est pratiquement impossible à surmonter. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que la paix dans la guerre prend une proportion admirable. Ce sont des expériences de personnes qui ont un sens du temps tout à fait particulier, exagéré, si l'on veut. Enfin, tout le monde perd son temps. On est dans une époque où tout le monde perd son temps. Ah non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas... Vous avez lu, ah non, j'ai pas le temps. Ah non, j'ai pas le temps, puis je suis débordé, puis j'ai pas le temps. Tout le monde est débordé, personne n'a plus le temps. Qui n'a plus le temps n'a plus de vie. C'est la mort qui vit. C'est plus... Dominique était absolument extraordinaire. Vous l'avez entendu dire qu'il y avait comme une horloge qui la prévenait de cette heure. Enfin, elle savait l'heure qu'il était sans avoir besoin de regarder l'heure, c'est-à-dire selon ce qu'elle avait fait, comme ce qu'elle appelait sa page. J'ai fait ma page, c'est un mot qu'elle répétait très souvent. Je lui remplissais son stylo le matin. Elle écrivait en général par beau temps sur un ponton à Venise. En collaboration avec l'eau, la lumière et les mouettes, comme elle le dit très très bien, avec sa très belle voix ronde et mélodieuse, comme son écriture était ronde et mélodieuse. Voilà, voilà une musicienne des mots avec le sens du temps. La musique, c'est quand même l'art du temps, vous comprenez ? C'est-à-dire, si on n'entend pas la musique, ça veut dire qu'on n'entend pas le temps. Le temps avec un grand T, c'est le titre d'un de mes livres, d'ailleurs, qui s'appelle « Les voyageurs du temps », où elle se trouve ici, là et encore ailleurs, dans des moments très précis. Et Venise est une ville extraordinaire, si on sait s'en servir autrement que touristiquement, pour des petites histoires comme ça, rapide. Venise, c'est la ville où le temps vous est le plus, à mon avis, le plus sensible, depuis très très longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Le temps.
Dans Portrait de femme, vous expliquez que votre emploi du temps, justement, pour parler du temps, votre emploi du temps à Venise, avec Dominique, était strictement codé et répétitif.
Absolument.
Tout était fait pour l'écriture, mais tout était fait dans une répétition nécessaire. Pourquoi ? Toujours le même restaurant, toujours le même endroit pour écrire, toujours les mêmes promenades.
Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Si vous voulez
être... À découvrir autre chose.
Découvrir dans les premières années à Venise, on fait le tour de... Alors là, on se crève pendant 7 ou 8 ans. Mais au bout de 10 ou 15 ans, vous avez fait un peu le tour des curiosités, des églises, etc. etc. Là, il y a une concentration du temps, comme nulle part ailleurs, et tout à fait étonnante. Le temps qui est le grand maître. Voilà. Ne pas se sacrifier au temps, c'est perdre sa vie.
Josiane Savigno.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas qu'à Venise que leur emploi du temps était très, très strict.
Oui, à Paris aussi.
Deux personnes qui avaient un emploi du temps même très strict. Et je crois que Solaire, ça a toujours un emploi du temps très strict. Et il aime bien.
On ne sait pas comment il vit.
Je ne sais pas moi non plus vraiment comment il vit, mais je sais des choses. Je sais qu'il aime bien les rides, les répétitions. Par exemple, nous, on se voit souvent le soir à la même heure, au même endroit. On prend un verre ensemble. Ça, voilà. Mais
je suis sûre que vous êtes du matin aussi.
Oui, bien sûr.
À quelle heure?
Ça dépend, mais 6h, 7h.
Vous commencez la journée en lisant?
Je commence la journée selon ce qui vient. Et ça peut être une lecture, ça peut être le fait que j'ai annoté 3 ou 4 nouvelles formules qui me sont venues, soit dans
en rêve.
Parfois, oui, souvent. Oui. J'entends quelque chose, donc je note. Puis après, voilà. Mais obtenir du temps à Paris, c'est héroïque. Il faut obtenir 2 heures d'écriture à Paris, c'est toute une stratégie.
Parce qu'il y a votre rôle d'éditeur, il y a votre rôle de directeur de revue.
Il y a le jeu de rôle, tout ça.
Il y a beaucoup de Solaire.
Ça, c'est l'après-midi, oui.
Sociaux.
Solaire se démultiplie. Il le fait d'ailleurs à bon escient. Parce qu'il sait
mais le matin, c'est à vous.
Voilà. Et, mais obtenir 2 heures vraiment de travail du matin, ça veut dire 1 heure où ça peut ne pas marcher. Voilà, il faut s'échauffer.
C'est pour ça que le territoire de l'écriture, c'est Venise, mais c'est aussi l'île de Ré.
Oui, l'île de Ré, c'est ça. Mais pour avoir 7 heures, ce qui est le minimum, vous voyez, il faut vraiment avoir un emploi de temps très, très strict.
Manger 7 heures très peu, à soi. Manger 7 heures peu, de pourquoi
parce que.
Écriture et assaise, il faut éviter les déjeuners.
Il faut éviter les déjeuners, par exemple. Hein, à quoi pensent les intellectuels, les journalistes, les médiatiques, à déjeuner. Ils sont tout le temps en train de déjeuner. Vous n'avez pas remarqué? Si, ils déjeunent tout le temps, tout le temps.
Vous, non?
Ben, non, parce que j'ai besoin de mon cerveau un peu l'après-midi aussi, pas pour faire la même chose. Enfin, voilà. Donc, je bois en fin de journée, pas avant.
Et vous buvez toujours autant?
Je bois de façon raisonnable ce que mon corps me demande, pas plus. C'est-à-dire du whisky, après, en général, un très bon vin de Bordeaux pour retrouver...
votre histoire et
ma
votre maman.
Ma civilisation dans ce monde de brutes. Excusez-moi, je pleure.
Mais il se trouve que j'ai Journal Amoureux sous les yeux et on parlait tout à l'heure du rire de Dominique, mais il n'y a pas que son rire, c'était aussi quelqu'un de très drôle et c'était quelqu'un qui rêvait beaucoup et elle notait ses rêves. Il y a d'ailleurs un très beau livre d'elle qui s'appelle Train de rêve. Et là, dans Journal Amoureux, je trouve un rêve qui m'amuse beaucoup et j'ai trouvé 2 petits passages, un sur le rêve et un plus grave, mais justement qui résout aussi une question. Autre rêve qui me laisse le souvenir d'un bien-être ravissant. Jim et moi sommes assis côte à côte dans un lit en compagnie d'une très belle jeune fille. Nous avons passé la nuit ensemble, heureux et reposés. Jim est installé entre elle et moi. Elle est enfantine, sensuelle et voluptueuse et ne nous prête aucune attention. Au milieu des draps mousseux et chiffonnés, elle met de l'or dans une petite corbeille pleine de jolies choses qu'elle tient entre ses genoux. C'est magnifique, non? Et du coup, il y a un très beau passage que j'avais retrouvé quand j'ai écrit sur Dominique quand elle a eu la mauvaise idée de mourir. Et je ne l'ai pas retrouvé là, mais j'ai retrouvé 2 phrases sur la mort qui me paraissent définitives. Adieu mort. Les amoureux sont inventés pour te renier. Sois raisonnable, fous le camp, ils ont gagné leur pari, eux.
Ah oui. Oh. Son surnom, à un moment donné, c'était Onirique, Roland. Parce que l'histoire des rêves, c'est quand même étrange.
Ah, fou.
Parce que c'est de la voyance, en quelque sorte. Et ce qu'elle dit tout le temps, c'est, voilà, j'ai fait un rêve, mais ce rêve a été dicté. Je peux le recopier, simplement. Et elle le faisait tous les
matins,
jours.
Oui.
Comme Victor Hugo.
Oui.
Là, c'est Huga, donc c'est beaucoup plus beau qu'Hugo, parce qu'elle n'était pas à table tournante du tout, n'est-ce pas? Donc c'est très, très rationnel, très précis, et avec une sensualité joyeuse, hein, pas de bouche d'ombre, etc. Mais alors, le coup d'écrire les rêves directement, c'est quand même étrange, très, très... Les recopier. Elle me dit, je ne les écris pas, je les recopie. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Train de rêve, qui est très, 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 très drôle, parfois, aussi.
Josiane Savigno vous a posé une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Philippe Solaire, pensez-vous que vous avez été influencé par l'écriture de Dominique Rollin?
Je n'ai pas été influencé par son écriture du tout. J'ai été influencé par sa personne. Sa personne est aussi...
Ça peut rejaillir dans son écriture, peut-être.
Enfin, Non, parce que je crois que c'est moi qui l'ai dérangée lorsqu'elle était un peu plus conventionnelle. Elle était membre du jury féminin, ce qui me paraissait absolument ridicule lorsqu'on s'est rencontrés. Et elle a été vite exclue parce qu'elle s'opposait aux vieilles toupies locales et à leur ronron social idiot. Donc elle a été exclue, il faut le souligner.
Elle est la seule.
Elle a été exclue du jury féminin, n'est-ce pas ?
Elle est la seule à avoir été exclue.
Absolument.
Il faut dire qu'elle avait écrit un article assez sévère sur les manips et les conventions du jury. Article où, sans doute relu par Solers, ils ont bien dû s'amuser tous les deux.
Voilà. On s'est amusé beaucoup. Et c'est moi qui l'ai quand même dérangée dans son écriture. Donc elle est venue vers moi et moi je suis allé vers elle très très... très naturellement.
Ça lui a valu des ennuis. Ça lui a valu au début des ennuis de la part de certains critiques qui étaient désarçonnés, par exemple dans Le Monde, le critique assez conventionnel disait j'ai retrouvé un article d'Émile Henriot sur Dominique Rollin qui disait que il était vraiment c'était un écrivain d'une grande stature, mais qu'il était un peu désarçonné. Mais ça, c'était. Je voudrais dire un mot justement des critiques d'autrefois, parce que finalement, ces critiques d'autrefois, on peut les regretter. C'était des gens qui se posaient vraiment des questions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ce qui aurait été maintenant, Dominique Rollin est passé quasiment au nouveau roman, on n'y comprend rien, et hop, on jette. Il disait, ça m'intrigue, ça me désarçonne, j'essaie de comprendre, etc. Ce même Émile Henriot a fait une critique de drame de Solers. Le drame, c'est intéressant parce qu'il est dédié à Dominique de manière oui. détournée. Et au lieu de dire, c'est ça, au lieu de dire, alors on n'y comprend rien, les phrases. Ce que les gens disent maintenant, en essayant pas d'aller au fond, et finalement ces vieux critiques conventionnels qui écrivent d'une manière qui nous déplairait aujourd'hui, au moins se poser les vraies questions sur qu'est-ce que je lis.
Pas tous.
Qu'est-ce qu'une femme, Philippe Solers ?
Lacan avait l'habitude de dire, que je trouve, en écoutant Le Rêve avec la jeune fille sur le banc, on est hétérosexuel quand on aime les femmes, qu'on soit un homme ou une femme. Formule étrange qu'il s'agirait de creuser. Une femme, c'est l'autre en tant que je peux ou pas en prendre connaissance, notamment au sens biblique, c'est-à-dire connaître aussi physiquement.
Mais pas seulement.
Pas seulement, bien sûr.
Vous ne vous arrêtez pas à l'étreinte.
Mais l'étreinte, cher ami, ça dépend comment c'est...
Ce n'est pas de la consommation.
C'est pas comme ça dépend... Nous ne sommes pas à l'étreinte à 6 millions de dollars. Nous ne sommes pas à la fellation la mieux payée de toute l'histoire de la physique et de la
vous
métaphysique.
Vous l'enviez décidément, ce
pas
pigeon.
Du tout. Je trouve ça absolument dégueulasse. Donc, là, les choses doivent être gratuites. Et elles ne sont pas gratuites par prédation ou par imposition, par viol ou par ce que vous voulez. Non, la preuve, c'est que ça coûte 6 millions de dollars dans ce cas.
Et donc, il ne faut pas dire combien
il faut
ça
que
coûté,
ce soit gratuit. Ça veut dire qu'il y a une étreinte peut valoir des mois ou des années. Une seule. C'est rare, bien sûr, mais ça existe.
Et à ce moment-là, ça s'arrête. Parce qu'il faut la penser, cette étreinte. Il faut l'immerger dans sa machine d'écriture.
Ça suffit, mais ça dépend, c'est réciproque. Ça suffit. Parfois, très peu de choses suffisent. Continuer serait s'enliser, etc. Bon. Mais il y a d'autres choses qui durent des années. Enfin, des mois. L'amour dure 3 ans, a dit quelqu'un, et il me fait rire.
Vous dites le contraire.
Voilà ce que vous écrivez dans Portrait de femme. Ce que je veux dire est très simple. Une femme est faite ou non pour vous confronter à la vérité physique, à son abîme, à son sillage, à ses éclosions. Le corps libre et antisocial de Eugenia, je ne sais pas comment vous prononcez.
Eugenia, oui.
Eugenia, acceptez le mien, c'est rare. L'une veut vous sortir, vous faire voyager, une autre veut vous épouser, une troisième espère un enfant, une quatrième veut vous utiliser dans le marché d'animation culturelle. Et je ne parle pas de toutes celles qui veulent absolument écrire 3 romans, 10 recueils de poèmes, idéalisation, préciosité, romantisation. Celle-là, au contraire, a envie de moins s'ennuyer, aime la poésie vécue, les caresses, le repos, le sommeil, les fleurs, l'océan, les arbres, les autres s'agitent, elle nage. En tant qu'homme, vous avez gagné si, en plus de l'autorité souple qu'elle vous reconnaît, vous la faites rire et si vous devenez son frère, son partenaire de jeu et subrepticement son enfant. Faites-vous aimer comme un enfant, espèce d'homme. De là viennent parfois des liens indéfectibles.
Oui, alors il y a
plusieurs... J'ai reconnu du Julia quand même là.
Oui, il y a plusieurs choses. Je crois que des gens. Enfin,
qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Mais qu'est-ce qu'un homme ? Je vous pose la question.
Les questions doivent être posées. Qu'est-ce qu'un homme ? Vous avez vu comment commence Portrait de femme. C'est on ne naît pas homme, on le devient la plupart du temps à ses dépens. Il s'en suit un long passage que je peux vous lire. Et c'est une réponse à Simone de Beauvoir. Voilà, je vais vous dire ça très vite. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une femme ? C'est en effet l'expérience que très peu d'hommes arrivent à considérer que c'est une altérité. Hein, donc c'est quelqu'un. On ne naît pas homme, on le devient la plupart du temps à ses dépens. C'est un long chemin dangereux qui le plus souvent ne mène nulle part. On vous montre des directions, on vous les impose. C'est fou ce que le mot homme engendre comme bruit de valeur. Il faut ceci, il faut cela, tenez-vous droit et marchez au pas. Tu seras un homme, mon fils, comme moi j'ai été fils, pour pouvoir commander des fils. Table de la loi, catéchisme en bois, formule toute faite, la plus sinistre étant un mannequin en képi devant un cercueil décoré, faisant état de sa tristesse mais aussi de sa fierté à l'égard d'un soldat qui n'est pas mort pour rien, les armes à la main. Tableau d'honneur, champ d'honneur, monument aux morts, mémorial, sacrifice, bénédiction, exemple à suivre, le vrai tombeau des morts et le cœur des vivants, transmission, initiation, commémoration, cendre. La voie est tracée, il faut se courber, faire du sport, de la gymnastique, se pencher sur des livres et encore des livres que vous n'avez pas plus envie de lire que de courir à n'en plus finir. Quand tout un système s'effondre, comme aujourd'hui, ce fameux homme n'est plus qu'un délinquant précoce, un terroriste cinglé, un trader scotché jour et nuit à son ordinateur. S'il n'a pas déjà divorcé deux ou trois fois, il rentre chez lui, subit la mauvaise humeur de sa femme, les demandes tapageuses et absurdes de ses enfants, les voix hallucinées de la télévision, la ferment autour du net, la société, quoi, qui vit chez lui comme chez elle. Il essaye de dormir un peu, mais la tête pleine de chiffres ou de chèques à faire. Il a un travail, celui-là encore heureux. Il n'est pas chômeur sans papier ou sans domicile fixe. Il peut même faire partie d'une minorité influente et croire peser, mais si peu, dans les décisions du marché. C'est l'homme, enfin, ou ce qu'il en reste, dans la mondialisation en cours. De plus en plus de femmes se reconnaîtront d'ailleurs dans ce portrait rapide.
Et sur l'amour dure 3 ans, justement, cela se répond dans Portrait de femme. L'amour dure 3 ans, dit-on, ou même moins, et c'est vérifiable quand il ne s'agit pas d'amour. En réalité, l'amour dure toujours, il faut simplement mieux définir ce toujours. Et alors, par rapport à la phrase de Lacan tout à l'heure sur « on est hétéro quand on aime les hommes, quand on aime les femmes, qu'on soit un homme ou une femme », il y a une histoire assez drôle qui nous est arrivée à Solaire, c'est à moi, à Bordeaux. Il faisait un débat à Bordeaux et j'étais pas avec lui, j'étais dans la salle. Et il se trouve que si on lit bien ses romans, il y a beaucoup de femmes qui aiment les femmes dans ses romans. Donc j'ai eu envie de lui poser une question. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir si... ici, il parle un petit peu dans Portrait de femme des lesbiennes, mais bon, je le trouve assez évasive. C'est plus intéressant ce qu'il dit dans ses romans sur les femmes qui aiment les femmes. Donc je voulais lui poser une question et je lui ai dit, dans vos romans, il y a souvent des femmes qui aiment les femmes. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous les définissez comme lesbiennes, c'est-à-dire qui ont un particularisme sexuel, etc. Ou si, au fond, ces femmes aiment les femmes parce qu'elles ont compris que les hommes ne s'intéressent aux femmes ni intellectuellement, ni sexuellement. Et à ce moment-là, tous les mecs de la salle se sont mis à hurler. J'ai dit, c'est pas la peine de répondre, ils ont répondu de même.
Et vous, vous répondez quoi ?
Oh, moi, je suis comme Groucho Marx, vous savez. Un homme est une femme comme les autres.
C'est quoi les femmes artistes de la vie ? Parce qu'il y a des choses jolies dans ce livre sur les femmes artistes de la vie. Une artiste de la vie ne perd pas de temps, identifie au coup d'œil les contraintes qu'on veut lui faire endosser, gagne sa vie, n'a pas peur des compromis, sait que les meilleurs arrangements sont
gagne
les plus communs.
Gagne sa vie, indépendante, sa vie, voilà. Désirable,
elle suit son
à condition d'être indépendante.
Elle est douée pour l'amour, mais aussi pour l'amitié. Même si elle est mariée, c'est une célibataire, exigeante. Elle est drôle, sensible, discrète. Elle sait voyager et juger. On se rencontre, on se reconnaît. Voilà. C'est quoi les femmes Solaire. Artistes de la vie, alors?
Écoutez, il y a eu une
Vous mutation. Dites qu'elles sont reconnaissables au fait qu'elles ont dû surmonter des situations difficiles et des tonnes de préjugés. C'est Laure et moi. Non.
Ben voilà, c'est vous.
Mais là, ce n'est pas dans le roman. Peut-être vous, Josiane.
C'est nous, là.
C'est vous et un certain nombre, pas assez de femmes qui ont déjà l'expérience de cette mutation considérable qui s'est passée depuis 30 ou 40 ans. Quand j'écrivais Femmes, j'avais mes notes de toute l'époque antérieure, du fait de la lutte pour les droits élémentaires, l'avortement, etc. Bon. Le problème est de savoir combien ont pu forger un système nerveux qui les rend libres par rapport à toutes les contraintes qui... C'est possible, mais c'est assez rare. C'est ce que j'appelle les artistes de la vie. Il y en a un certain nombre. Et quand vous...
C'est celles qui vous font rire, au fond.
Pas seulement. Il y en a qui ne font pas rire, mais qui sont aussi des artistes de la vie. Elles sont plus graves. C'est des questions musicales. Il y en a qui... Voilà. Bon, il y a... On se reconnaît, quand je dis qu'on se reconnaît, ça veut dire que les contraintes, pour l'un comme pour l'autre, sont telles qu'on a envie de se désennuyer, comme dit dans une rencontre un personnage féminin qui dit « désennuyons-nous ». Qu'est-ce qu'une femme, vous demandez ? Souvent, c'est de l'ennui, qui voudrait sortir de l'ennui. Des ennuis, mais de l'ennui. Les femmes s'ennuient. Et donc,
les hommes ? Bon, sont encore plus emmerdants que les femmes. Hein.
Ah non, mais ils sont emmerdants. Ils sont entre eux. Ils tournent à la roulette. Donc, c'est comme je dis du narrateur, il est approché par l'église homosexuelle, mais c'est pas non plus son truc, vous comprenez ? Mal. Donc, les hommes sont entre eux.
Solaire, c'est comme Sartre, il préfère la compagnie des femmes.
Mais oui, voilà, bien sûr. Voilà,
il y a l'expression femme de sa vie. Qu'en pensez-vous ?
Ah oui, en condition
de... J'ai rencontré la femme de ma vie.
Mais c'est trop... Il faut mettre le pluriel, sans quoi... Oh, c'est vraiment...
Bah d'ailleurs, vous avez plusieurs vies, vous. C'est ce que vous expliquez. Oui, vous n'avez pas qu'une vie.
Bah oui, mais ils vont dans le mur, voilà, tous. Et mais, oui, mais non, ça, il faut en avoir plusieurs. Oui, oui, oh, bien sûr. Voilà, écoutez, deux phrases, et puis c'est tout. Hein, voilà, pour vous donner la tonalité en sol mineur. Voilà, c'est rapide. Il faut que les phrases soient rapides. Voilà. Commencez tout de suite. Commencez tout de suite, dis-je aux débutants, hommes, dans la vie, dans l'existence. Commencez tout de suite. Vous êtes le garçon imprévu, rêveur, dissipé, renfermé, exubérant, terrible, entre guillemets, énigmatique. Aucune punition ne vous fait peur. Ils vont droit dans le mur, vous sautez par-dessus le mur. La vie est courte. Vous décidez d'en avoir plusieurs. Voilà.
Mais c'est un bon programme pour ce début
la société, 2013. La société, c'est la mort. C'est tout.
Merci Josiane Savigno, merci Philippe Solaire. On se retrouve demain pour cette dernière émission avec vous. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Philippe Palares, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde. Merci à Josiane Savigno. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.